Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, retourner les classiques littéraires comme la terre d'un jardin, biner les phrases, terrasser les paragraphes. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission qui sème le chaos et qui attend que ça pousse. Pour tenir l'arrosoir avec moi ce dimanche, celle qui a l'obstination du lierre grimpant sur la façade et le mordant de la cochenille s'attaquant au ficus. Bonjour Constance.
Bonjour Clara Dupont-Mono, ma rose. Et les roses c'est joli et ça parfume partout, même les water.
Attention, ça pique un peu. Avec nous également, celle que nombre d'hommes ont appelée belle plante et qu'elle a souvent en retour traitée de fumier. Bonjour Liliane Rudière.
Bonjour Clara.
Avec nous enfin, celle que l'on surnomme la Drosera, du nom de cette jolie herbacée ébouriffée dont on ne se méfie pas et qui vous mange un doigt. Notre plante carnivore à nous, c'est Cécile Coulon, bonjour.
Bonjour Clara.
Le classique que nous allons désherber aujourd'hui, eh bien c'est vous qui allez le deviner, chers auditeurs, à la façon de question pour un champion, Julien Lopers, restant le plus joli des round-up. Après lui, rien ne repousse. Attention, êtes-vous prêts, chers auditeurs? On y va. Je suis publié en 1759 à Genève, de façon anonyme pour éviter la censure, et acheminé clandestinement vers la France, puis toute l'Europe, où je m'écoule à 20 000 exemplaires, un succès foudroyant pour l'époque. Je suis un conte, découpé en 30 chapitres. Je raconte l'histoire d'un homme chassé de son château de Westphalie, en Allemagne. Commence pour lui un long périple qui le mènera au Portugal, en Turquie, en Hollande, au Paraguay, et j'en passe. Chaque fois, mon héros se heurte à une catastrophe, type tremblement de terre à Lisbonne, épidémie, inquisition, mais il ne perd pas sa fraîcheur, c'est un peu le Forrest Gump du XVIIIe siècle. Néanmoins, ces catastrophes grignotent son optimisme façon puceron sur le rosier, ne reste plus qu'à cultiver son jardin, prendre soin de soi pour ne pas devenir fou. Alors, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un concentré de violence. J'offre à lire une balade entre viol collectif, tuerie sanguinaire, exploitation humaine, guerre et, on l'a oublié, mais même mon héros si gentil est un meurtrier. Mon papa, l'auteur, se moque de la religion, de l'héroïsme guerrier, de l'autorité, de l'esclavage, avec la même ironie qu'avait employé Montesquieu 10 ans auparavant, et surtout pour faire passer la question philosophique du bonheur dans un monde pareil. On invoque le nom de mon papa aujourd'hui chaque fois qu'on parle d'intelligence, de débat, de tolérance. Pour le résumer autrement, mon papa aurait détesté les réseaux sociaux. Je suis, mais je sais que vous avez deviné derrière votre poste. Allez, je vous aide. Candide ou l'optimisme de Voltaire.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Le sais-tu ? Quand Voltaire écrit Candide, il a 64 ans, 20 ans avant sa mort. Il n'a pas trop le moral, hein. Il s'est frité avec pas mal de gens. Il est un peu trauma par la guerre de 7 ans, commencée en 1756 contre les Prussiens, que l'on retrouve dans Candide sous le visage des Bulgares. Alors Voltaire trouve un petit château près de Genève, les Délices, avec un joli jardin, et lui qui était citadin se met à jardiner, à devenir un Parisien bobo qui parle graines de fenouil et chou-kale, sauf que lui il invente Candide et il y met tous ses doutes sur l'optimisme théorisé à ce moment-là par le philosophe Leibniz. Pour défricher cette jungle de doutes, nous avons heureusement un guide dont la machette de l'intelligence tranche sans répit pour ouvrir le passage. Ce guide, c'est Isabelle Sorante. Bonjour Isabelle.
Bonjour Clara, bonjour les amis.
Alors on vous connaît pour vos chroniques dans l'émission Par Jupiter, on vous connaît aussi pour vos romans. Le dernier vient de paraître, La femme et l'oiseau, aux éditions Lattès, que je connais bien. On vous connaît moins en aficionado de Voltaire. Voltaire est pour vous ce que la botanique est à Alain Baraton, le jardinier indispensable. Isabelle Sorante, dites-nous pourquoi vous aimez Voltaire.
Ah, j'aime Voltaire parce que quand je l'ai découvert, j'étais adolescente et pour moi, ça a tout de suite illustré la pensée, la capacité de remettre en cause les choses établies et de le faire avec une pointe d'humour, mais qui est toujours exactement juste. Enfin, et donc, ça m'a toujours ébloui, je crois.
Ouais. Est-ce que vous nous liriez votre passage préféré ?
Oui, il est horrible.
Ah bon, mais comme beaucoup de choses dans Candide. Hein.
Alors, les canons hein, renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village à barre que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupées. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares et des héros à barre l'avaient traité de même.
Eh bien, écoutez, à lundi hein, et bonne fin de semaine. Merci Isabelle Sorrent. Est-ce que je suis la seule à avoir aimé et apprécié Candide autour de cette table, Cécile Coulon ?
En fait, je ne sais pas si j'arrive à répondre à la question, parce qu'il a tellement été travaillé en cours, et c'est un texte sur lequel j'ai été tellement interrogée, notée, et j'ai tellement fait de devoirs dessus. Moi, ce qui m'interroge beaucoup dans Candide, c'est que quand on allait au lycée, qu'on disait mais vraiment la violence des adolescents, avec les jeux vidéo, avec la pornographie, maintenant on va travailler sur Candide, et allez, on va tomber sur ce genre d'extrait. Et en fait, c'est assez étonnant de voir que, comme un livre est paru et a été sponsorisé par l'Éducation nationale, on en oublie complètement la violence qui est à l'intérieur. Donc je pense que j'apprécie Candide, mais peut-être pas pour le style, peut-être plus pour ce que ça dit d'aujourd'hui.
Liliane Roudière.
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa pétille. J'aime beaucoup l'absurdité de tout ce conte. J'aime sa finalité. Et puis, il y a des fois où je suis un peu perdue dans toutes ces guerres, dans tout le contexte historique, mais j'adore vraiment.
Constance.
Alors moi, je suis assez d'accord avec Cécile, dans le sens où je trouve que c'est pas évident à lire parce que c'est beaucoup de dénumération. Je trouve que le style littéraire est pas toujours très facile. En revanche, j'adore le fond et j'ai adoré décortiquer l'œuvre et lire tout ce qu'il y avait autour, en fait. Et vous, Clara ?
Eh bien, moi, un peu comme vous, j'ai été assez stupéfaite par la violence décrite dans le livre. Et plus d'une fois, d'ailleurs, je me suis dit que la même chose vue par un cinéaste américain, ça donnerait un film catastrophe d'envergure, alors mondiale. Et en gros, c'est un peu Ridley Scott, Voltaire, même combat, quoi. Après, l'affirmation de cette brutalité m'a semblé logique, puisque l'affirmation d'une liberté est brutale. Et même l'ironie est, pour moi, un procédé brutal, mais d'une indispensable brutalité.
Oui, tout à fait, Clara. Et puis en plus, c'était le contexte de l'époque où on torturait beaucoup. Donc il est complètement, il n'est pas au-dessus de ce qui se passe en réalité sous ses fenêtres.
On a parlé d'indispensable. Je me tourne vers Constance, bien sûr, parce que notre petit jardin Picard, hein, c'est elle, enfouie, plein de couleurs, prêt à bourgeonner. Or, le bourgeon d'un livre, n'est-ce pas la première phrase ? Mais si, c'est pourquoi Constance nous dissèque la première phrase de Candide de Voltaire.
Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Tudertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Donc, mis à part le fait que j'ai l'air débile quand je prononce Tudertentronck, rapport au fait que j'ai pas fait allemand à l'école, mais notons que cet argument est d'une parfaite mauvaise foi, étant donné que j'ai fait anglais première langue et que j'ai tout autant un accent en carton dans la langue de Shakespeare. Tandis que Voltaire, lui, parlait très bien l'anglais et beaucoup d'autres langues parce que c'était un génie, certes, mais aussi certainement parce qu'il n'avait pas eu en 5e B, Madame Masson, la prof d'anglais, qui sentait toujours un petit peu le whisky le matin. Mais je m'égare comme une voiture. Allez vite, je me recentre. Donc, il y avait en Westphalie, Voltaire plante pour commencer son décor en Allemagne. On aurait préféré les Maldives, mais on déchantera très rapidement sur nos envies de voyage dès les prochains chapitres. Donc, alors, nous sommes où exactement en Westphalie, Constance ? Eh bien, Constance, nous nous trouvons précisément dans le château de monsieur le baron de Tudertentronck. Ah, fort bien ! Donc, un château, un baron, ça vend du rêve. Chouette, j'adore Sissi. Ah non, 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 vous allez être déçue, là, ma petite fleur bleue. Parce que dans ce conte philosophique, tout tourne très vite au vinaigre. Ou plutôt, plus précisément, à la boucherie, au viol collectif. Ça sent la tournante dans les oubliettes. Donc, on oublie Sissi. Non, Sissi. Mais ce baron, il est un petit peu sympa, non ? Non, non, vous arrêtez avec vos questions benettes, enfin. Voltaire, c'est l'ironie, l'humour. Noir. Donc non seulement ce baron est insensible et cruel parce qu'il chasse Candide quand il a le malheur de rouler 2-3 patins à sa fille Cunégonde, qui au passage est certainement sa demi-cousine, mais bon, Voltaire ayant entretenu lui-même une relation incestueuse avec sa nièce, on va faire l'impasse là-dessus parce qu'on est un peu fatigué de constater que ce monde est pourri depuis toujours. Voilà, donc je disais, inutile de vous attacher au baron qui est un salopard car il va être assassiné par des Bulgares sanguinaires tout de suite derrière.
Non, non, vous arrêtez de pleurer. Non, non, c'est agaçant. Je vous dis que c'est de l'humour noir. Et il nous reste la fin de la phrase à disséquer. Vous, mouchez-vous, mon petit, c'est insupportable. Alors, qui nous présente-t-on dans ce décor faussement paisible? Un jeune homme à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Bonjour, Candide. Alors, je ne dirais pas que vous êtes complètement con, je dirais que vous êtes un grand naïf. Comment? Non, non, je ne suis pas voyante. Lundi, c'était dans le prénom. Voilà, c'est comme ça, mon petit lapin, quand on réfléchit un peu. D'ailleurs, au passage, si chacun portait un prénom en rapport avec sa qualité morale, les relations humaines seraient plus simples. Bonjour, je m'appelle Traître Pleutre. Et voici mon ami Abruti. Enchantée, moi, c'est Constance.
Oh,
voilà. Candide, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Faut surtout comprendre que la nature avait pas du tout fini Candide, qu'elle l'avait doté plutôt d'un cuit de bulot. Parce qu'il lui faut tout de même une tripotée de malheurs à travers le monde et attendre le chapitre 22 avant de se demander, je cite, si les hommes ne seraient pas tous menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots. Ah, ben moi, écoute, j'avais compris dès le CP. C'était quand Rémi m'avait piqué mon goûter. Voilà, donc si vous n'avez pas de second degré, ne lisez pas Candide, sinon vous allez vous blesser.
Merci, Constance. Isabelle Sorrente, rien que ce début que Constance a cité, il y avait en Westphalie. Déjà, à la première phrase, il y a cette espèce d'ironie qu'on sent. Il se moque de quoi, la Voltaire? Du conte, en fait?
Oui, il se met dans la perspective d'un conte pour enfants, tout de suite, en étant dans le conte philosophique. Et pourquoi il fait ça, en fait, c'est parce que au moment où il l'écrit, il y a une attaque un peu anti-philosophe, anti-lumière, qui a suivi de près une tentative d'assassinat de Louis XV par Damien. Donc, du coup, ils sont pas en odeur de sainteté. Et Voltaire, il est très, il est à la fois un théoricien, un auteur génial, et en même temps, il a ce sens pratique. Déjà, quand il travaillait à l'encyclopédie, il disait à ses amis à D'Alembert, écoute, il ne faut pas qu'on fasse un gros livre comme ça, c'est trop cher, il vaut mieux faire des petits livres, ça se vendra mieux, nos idées diffuseront plus. Et donc, il a une double idée en faisant Candide, c'est d'une part, avec un conte, il se met à l'abri des attaques directes en faisant du second degré, et d'autre part, c'est plus bref, et c'est vraiment ce qui va se passer. D'ailleurs, ça va être un best-seller, ça va être beaucoup, beaucoup lu.
Alors, qui dit conte dit morale. Vous parliez tout à l'heure du côté très torpilleur de Voltaire. Et c'est quoi la morale, en fait, de Candide, alors?
Ah, alors la morale, je pense qu'elle est en fait très profonde. Ça m'a assez émue de le relire. Et je crois que la morale, eh bien, en fait, c'est que il faut constater que le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire avec beaucoup de cruauté, de dureté, et en même temps, il ne faut pas se retirer du monde. Parce que à un moment, les personnages, ils vont dans l'Eldorado, qui est un peu genre un Nirvana, et ils n'y restent pas, parce qu'ils doivent se battre dans le monde réel. C'est d'ailleurs ce que fait Voltaire, hein. Il ne s'arrête pas, même quand il est très malade, à la fin de sa vie, il continue.
Mais pourquoi? Parce que du coup, rester dans l'Eldorado ou ne pas aller dans le monde, ce serait vécu comme une lâcheté.
Peut-être pas comme une lâcheté, mais comme quelque chose de détaché du réel. Je pense, en relisant Candide, que Voltaire devait détester tous les théoriciens qui sont trop détachés du réel. Vous voyez, à la fin, quand ils vont voir le derviche, le sage oriental à l'extrême fin, c'est très très beau parce que Pangloss commence à partir sur des grandes théories.
Alors, Maître Pangloss étant le maître de Candide, qui lui est résolument optimiste et passe son temps à répéter que tout est bien dans le meilleur des mondes.
Oui, tout à fait. Et il dit, mais alors pourquoi il y a tant de souffrances sur Terre, etc. Et le derviche lui répond, écoute, quand un seigneur arme un bateau, est-ce qu'il se soucie du bien-être des souris? Et Pangloss repose une question en disant, mais pourquoi? Je comprends pas. Et là, le derviche lui dit, écoute, tais-toi. Et au début, c'est à la fois très drôle et en même temps, je pense que c'est assez profond. Ça veut dire qu'il y a des choses dont qu'on ne peut pas aborder par la parole, mais qu'on peut uniquement aborder par les actes.
Cécile Coulon.
Dans l'aspect conte dont on parlait là tout à l'heure, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Candide, tout au long du texte, ne vieillit jamais. Physiquement, on n'a pas sa description, et il reste, d'une certaine manière, éternellement candide, jeune, peut-être beau, on ne sait pas trop, tandis que les personnages, surtout les personnages féminins, vieillissent très vite, sont décrits, sont soit gras et appétissants, puis laides, et c'est pareil pour Pangloss, et c'est pareil pour d'autres. Est-ce que, d'une certaine manière, ça préfigure pas un peu le portrait de Dorian Gray, c'est-à-dire que le monde s'enflamme, tandis que Candide, lui, reste éternellement beau et jeune? Et surtout, est-ce que ça signifie pas que Candide est un personnage intemporel qui, d'une certaine façon, ne mourra jamais parce qu'il y a tout, il y aura toujours des candides.
Ah, ça s'appelle mettre la réponse dans la question.
Elle est
très forte, la question. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être Candide, c'est aussi le lecteur. Donc, pour qu'on puisse s'identifier, si on nous dit au chapitre 3 qu'on va avoir le nez coupé, un œil en moins, enfin, comme ce qui arrive à Pangloss, on sera un petit peu crispé. Donc, peut-être qu'en laissant comme ça, on arrive, la suspension d'incrédulité est moins violente pour nous. Après, en ce qui concerne les femmes, effectivement,
il a été attaqué, Voltaire, hein, où on lui a dit que Cunégonde, notamment dans Candide, subissait un sort absolument terrible. Elle termine en plus laide et acariâtre, alors que les personnages masculins, en tout cas Candide, lui, ne change pas. Il n'y a pas de corrosion, ni de son physique, ni de son caractère, alors que Cunégonde, oui.
C'est ça. Et je pense que ça révèle quelque chose de l'époque et qui est peut-être encore toujours vrai, qui est la plus grosse punition des femmes, c'est la défiguration, c'est la laideur. Et c'est très bien montré dans le film qui était adapté par Norbert Cardunau, qui était un film sur Candide ou l'optimisme au XXe siècle. Il y a des images qui étaient pour moi terrifiantes, dignes du film d'épouvante, et qui n'étaient pas des images de massacre. C'est que quand Cunégonde a perdu sa beauté, à la fin, on ne la voit plus que de dos. Et à un moment, Candide s'approche d'elle et il a très peur. Et du coup, on se dit, mais c'est la défiguration, c'est la mutilation. Donc, il révèle quelque chose de la condition féminine sur l'importance de la beauté. Et en même temps, tous les personnages ont des mutilations, tous les personnages vieillissent, tous les personnages portent la marque de la souffrance, et les femmes en particulier. C'est pour aller au-delà de ces apparences, comme quand il va voir la jeune fille Paquette dans la rue, qui a l'air tellement joyeuse, et en fait, c'est l'horreur, sa vie, elle se prostitue, etc. C'est pour dire, non, au-delà de ces apparences, ceux qui sont beaux perdront la beauté, ceux qui sont puissants perdront le pouvoir, ceux qui sont riches perdront la richesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
C'est à lundi, donc, hein, donc bonne fin de semaine. Mais quelle était la vie sentimentale de Voltaire? Ça, c'est la séquence Closer, qui est quand même ce qui nous intéresse le plus. Enfin, je veux dire, il faut être honnête.
Tout à fait.
Alors, sa vie sentimentale, moi, j'en connais deux choses. Hein. On connaît sa liaison très importante avec Madame Duchâtelet, hein, qui était quelqu'un de très intelligent, une scientifique, etc., qui s'est terminée. Alors, je suis toujours fascinée par la fin de cette liaison, c'est parce que justement, elle adorait Leibniz et elle adhérait à l'optimisme béat dont il se moque dans Candide. Je ne sais pas si c'est ça qui a vraiment précipité leur rupture ou si c'était un symbole, un peu comme la dispute de Troie, qui mettait fin à quelque chose de mouvementé. Et sur son rapport aux femmes, j'ai découvert récemment, grâce au livre de Titiou Lecoq sur les grandes oubliées de l'histoire, qu'il n'était pas très sympa avec les femmes de lettres. C'est-à-dire qu'il y a deux femmes qui avaient écrit des tragédies, dont Brutus et une tragédie sur César, dont il a carrément, on va dire, sali la mémoire en disant qu'elle s'était lui-même ayant écrit des tragédies sur les mêmes sujets. Il a dit, ben non, en fait, elle s'était inspirée de Fontenelle, c'est pas elle qui...
Oh, jaloux
ça. Voilà. Donc il n'était pas toujours parfait.
Pas si progressiste, en fait.
Non, il y avait des limites.
Voltaire, dis donc.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi.
De tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie.
Mano Negra, Pas assez de toi.
France Inter. Livre et châtiment.
Pourquoi est-ce que les Français rechignent devant Voltaire? Parce que pour les dévots, il n'était pas fréquentable, il était vraiment trop mordant. Hein, et pour ce qu'on en rappelait la gauche, il est mort riche, tout à fait tranquille. Les Français n'aiment pas Voltaire. C'est les Anglais qui ont commencé à publier la correspondance de Voltaire, etc. 13 volumes, en Pléiade, je vous les recommande, le matin. Prenez de la vitamine Voltaire.
Tout à fait, tout à fait. C'est Philippe Solers en 2017. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission plus corrosive encore qu'un pesticide. Le classique littéraire qu'on arrose aujourd'hui, c'est Candide de Voltaire, l'histoire d'un optimiste qui parcourt les pays et se prend en pleine poire les monstruosités du monde. C'est un peu le tour du monde en 80 jours sous acide. Et dans Candide, la mort est partout. On y est ventre, pend, coupe, brûle. Alors, Voltaire voulait peut-être dénoncer la guerre, mais son livre est une véritable tuerie. Comment l'expliquez-vous, Isabelle Sorrente, notre invitée?
Ah, Clara, je vais pouvoir dire quelque chose d'horrible, donc je suis contente. En fait, c'est vrai qu'il y a un petit, côté Las Vegas parano. C'est vrai ce que vous dites dans ce qu'on visualise, il y a un petit côté comme ça. En fait, Voltaire, à son époque, on torturait. Par exemple, pendant l'affaire Calas, donc quelqu'un qui l'a défendu, qui était un protestant accusé d'avoir tuer son fils parce que il voulait se convertir au catholicisme. Calas, il a été condamné à être roué, puis brûlé. Alors roué, on croit naïvement que ça veut dire roué de coups. Et je vais me permettre de vous rappeler ce que ça veut dire quand on le lit sur Wikipédia. En fait, roué, les gens, on leur cassait les membres et on les exposait sur une roue pour qu'ils agonisent extrêmement lentement. Dans le cas de Calas, on l'a étranglé au bout de 2 heures d'exposition sur la roue. C'est très tardif en France que la peine de mort ait été appliquée, c'est avec la guillotine, sans supplice préalable. Donc, à l'époque de Voltaire, il ne fait que décrire un peu comme si nous, on décrivait des féminicides en disant, voilà, il s'est passé ça, et peut-être que dans un monde où il n'y en aura plus, on dira, mais qu'est-ce qu'elles avaient à décrire des horreurs comme ça? C'est juste que ça se passait sous ses fenêtres.
Et du coup, Voltaire reprend, en fait, la cruauté des faits pour dénoncer la cruauté des faits.
Oui, absolument. C'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il fait ça donc dans Candide tout le temps, avec cette espèce d'humour qui fait un peu comme quand il parle de boucherie héroïque ou quand il rencontre l'esclave à la main et la jambe coupée, qui dit « Ah, mais c'est comme ça que ça se passe ». Enfin, cet humour fait passer la pilule. Et Voltaire, c'était quelqu'un qui était en fait non-violent dans le sens, presque dans le sens auquel on l'entend par rapport à Gandhi. C'était un homme d'action qui était contre tout ce qui était violence, au point d'ailleurs qu'il était végétarien, il ne mangeait pas d'animaux.
Ouais, très beau Parisien, Voltaire.
Oui. Hein. En avance.
Ah, oui. Alors, nous disions tout à l'heure que Candide avait été adapté au cinéma. Ça n'a pas arrêté Constance, qui nous a quand même préparé la bande-annonce, non pas du film, mais du livre. Et oui, et d'ailleurs, quand on a la bande-annonce, finalement, pas besoin d'avoir le film, en fait. On a la bande-annonce du livre.
Si tu penses que Voltaire est un modèle de fauteuil de chez Ikea et que Candide est un dessin animé des années 90 sur une jolie petite fille aux yeux clairs, Livre et Châtiment est l'émission qu'il te faut, gros wesh. Candide est un roman du XVIIIe siècle dont le personnage principal éponyme pousse le lecteur à relativiser quand il lui semble que sa vie va tout de travers.
Donc, année un peu chargée, si je résume, j'ai subi une tempête, un tremblement de terre, on a voulu me brûler, me pendre, me fendre, on m'a fouetté jusqu'à l'os, naufrage, carnage, arnaque, pédophilie, cannibalisme. Je crois que je vais poser un ou deux RTT avant de revenir au bureau.
Candide, en plus d'être un roman philosophique, est également un roman d'amour, ou presque.
Ah, Cunégonde, je vous aime, vous êtes belle. Ah, oui, moi aussi, mon ami. Ça ne vous ennuie pas si je fais une mini-pause? Parce qu'en fait, j'ai été violée et ventrée par un certain nombre de soldats. Ensuite, j'ai été vendue, reviolée. Je suis vannée. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vous aime, vous êtes belle. Ah oui, au fait, j'ai tué votre frère. Oups. Ah, flûte. Eh ben moi, avec les viols, les années de souffrance et de la misère, je suis devenue laide. Ouh, vilaine, laide, dégueulasse. Ah mince, ça va, tant pis quand même. Si vous êtes moche, je vais quand même vous épouser. Soyons philosophes, nous ferons l'amour dans le noir.
Candide est un récit ancien, certes, mais dont le propos reste toujours d'une incroyable modernité, notamment en termes de permaculture.
Il faut cultiver son jardin.
Candide, le best-seller en développement personnel vendu avec ses graines, sa binette et son lopin de terre.
Parce que c'est mieux que le Lexomil.
Merci Constance. Attends, Isabelle se rend. Bon, là on est dans l'héritage voltairien. Décalage, irrévérence.
Ah oui, oui, il serait content, Voltaire, je pense, d'entendre cette chronique.
Il adorerait. Ah,
oui, il adorerait Constance.
Et d'ailleurs, l'usage de l'ironie incarne un peu l'esprit français. Donc, ça, de ce côté-là, Voltaire est très français. Alors, Voltaire critique beaucoup de choses avec humour, le pouvoir, la guerre. Mais il critique pas tant que ça la richesse. Et ça, c'est quelque chose qui a frappé Liliane Roudière. Hein, Liliane, on en parlait tout à l'heure. D'autant qu'en plus, Voltaire était assez fortuné.
Oui, Voltaire est riche. Il ne s'en cache pas. Et il est surtout riche de par les affaires qu'il a faites aussi. Et à 65 ans, dans une de ses lettres, il se définit comme un commerçant philosophe. Mais cependant, il n'hésitait pas à faire des affaires avec des trafiquants d'armes, avec
des trafiquants d'humains.
Voilà, des esclavagistes. Oui, oui. Et donc, c'est là où ça cogne un peu pour moi, avec le terme de philosophe et d'humaniste.
On peut, Isabelle Sorand, du coup, avoir les mains un peu sales et être un grand philosophe?
En tout cas, je pense que c'est effectivement totalement répréhensible. Enfin, et il n'en reste pas moins que ses écrits sont bouleversants.
Oui. Alors, Candide, Cunégonde, oui, et puis alors surtout, là où je vous rejoins, Isabelle Sorand, c'est que Voltaire, en quelque sorte, donc les défend quand même, dans ce livre en tout cas, les esclavagisés. Et de la même façon, Candide, Cunégonde ou La Vieille sont eux aussi, sans être des esclaves, mais ce sont des chassés.
Oui.
Et ils sont déclassés. Puisqu'ils étaient riches, ils ont tout perdu. Est-ce que Voltaire avait donc un faible pour les parias?
J'adore votre question, Clara. Je pense que c'est juste. Il a un faible pour les parias, peut-être pour les monstres, en tout cas, tous ces gens amputés. Il a une espèce de, je dirais, de compassion colérique qui est très, très belle. Et effectivement, c'est ce qui se dégage du livre de Candide. À la fin, ils sont dans une espèce de petite communauté. Ils sont mutilés, ils sont abîmés. Même Candide, on devine, il a peut-être pas eu, ça me fait repenser à la question de Cécile, il a peut-être pas de mutilation physique, mais il a sans doute une mutilation psychique, parce qu'il y a beaucoup de renoncements, c'est-à-dire que l'amour, il y croit plus.
Il a perdu son château.
Voilà, il renonce à beaucoup de choses, donc il y a une mutilation psychique en tout cas. Et en fait, ce que nous dit Voltaire, c'est que cette mutilation, nous n'y échapperons pas, hein, parce qu'il montre dans Candide des rois qui ont perdu leur royaume, des gens qui sont immensément riches à Paris, mais qui s'ennuient sans arrêt, donc qui sont un petit peu racornis, enfin, qui n'ont pas clairement pas une grande âme. Donc, en quelque sorte, qu'on soit généreux, qu'on soit radin, qu'on soit noble, je parle psychiquement ou pas, on n'échappe pas à cette logique de perte et de mutilation. Donc, effectivement, il a une grande, un amour, je crois, pour les parias et les mutilés.
Alors, on parlait de mutilation, il existe aussi des mutilations littéraires. Et c'est un peu la spécialité de Cécile Coulon qui va nous dire quels sont les passages qu'on peut sauter dans Candide de Voltaire.
Ah oui, donc là c'est un peu compliqué parce que comme le texte de Voltaire est plus court que ma barbe ou que celle de Timothée Chalamet, voilà un point commun que nous avons, la star du moment et moi-même, une pilosité pauvre en fourrure virile. Donc comme ce texte est très très court, très très dense, qu'il se passe énormément de choses, c'est compliqué de couper dans le gras, dans le mou, dans le pâté de 3 jours. Mais là où ça devient un peu crispé pour le héros, que dis-je, la star, l'étoile, le Harry Potter du XVIIIe siècle, Candide, c'est que tous les passages du texte, sans exception, ont été travaillés en classe, tout niveau, époque, domaine confondu. Et donc d'une certaine manière, ce qui relie les élèves des années 50 et les 2000, comme on dit, à part les pantalons taille haute qui remontent le bourrelet au niveau du menton, et bien c'est Candide. Et encore une fois, quelle que soit l'époque ou la taille du cahier, 21, 29, 7, paix à ton âme, tes marges étaient si belles et tes carreaux bien larges, on a tous eu les mêmes réponses quand on s'interrogeait sur Candide. Donc je vous refais un peu la scène, on est en cours de français, de philo ou d'éducation civique, on est au premier rang, on lève la main, derrière nous il y a Thierry, Jean-Luc ou Dylan qui ricanent en se mesurant le sexe avec un trombone, et là on demande... Mais madame, quand même, l'épisode du nègre de Suriname pour dénoncer l'esclavage quand l'auteur a fait sa fortune sur la traite négrière, c'est un peu du rattrapage, non? Mais enfin, mademoiselle, on est au XVIIIe siècle. Ah d'accord, mais madame, l'épisode de Cunégonde qui passe de grasse et excitante à laide et impotente, c'est un peu misogyne, mais enfin mademoiselle, on est au 18e siècle. Ah d'accord, mais madame, il y a Dylan derrière qui me traite de grosse bouffonne, c'est un peu irrespectueux, mais enfin mademoiselle, on est au 21e siècle. Ah d'accord, mais madame, le passage où Cunégonde est violée pendant 6 mois par un capitaine marin et le grand inquisiteur, c'est un peu terrible, mais enfin on est sur un bateau, enfin bon, vous voyez le truc. Je peux continuer pendant des heures, vous saisissez l'idée. Le texte fait autorité sur ce qu'il dit du siècle, des idées du siècle, mais surtout des idées philosophiques avec lesquelles Voltaire n'est pas d'accord. Et qu'il met face à des scènes de violence et de barbarie extrême pour réfuter ses idées. Donc en fait, Voltaire ne débat pas, il inflige. Bref, c'est à lire absolument, seulement si vous voulez avoir une bonne note au prochain devoir.
Merci Cécile Coulon. Isabelle Sorrente, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on sacralise un peu le XVIIIe siècle ?
Je ne sais pas si on le sacralise ou si on le simplifie. Par exemple, Voltaire, qui est en plein dans le siècle des Lumières, il n'était pas d'accord avec la vision de Descartes sur l'animal-machine. Il s'en moquait beaucoup, il trouvait ça ridicule, il a écrit beaucoup de textes là-dessus.
Et c'est quoi l'animal-machine ?
L'animal-machine, donc pour Descartes, c'est l'idée qu'en fait les animaux, on peut les faire des vivisections, Descartes en pratiquait, et pour autant ils ressentiront rien. Donc Voltaire n'était pas d'accord avec ça, et il écrivait des textes pour dire qu'il suffit qu'on fréquente un peu les animaux pour savoir qu'en fait ils ressentent comme nous. C'est très très fort, enfin c'est très original pour l'époque. Et nous, quand on parle lumière, on confond souvent, je pense, les lumières et le rationalisme. Vous voyez ce rationalisme ambiant, parce qu'on est au 21e siècle, qui nous dit que en fait, toutes les heures maintenant, on n'est plus en avance ou en retard, toutes les heures ont exactement cette espèce de crucifixion par le chiffre sous lequel on étouffe tous. Ben ça, c'est pas ça les Lumières. Et je pense que si Voltaire revenait aujourd'hui, eh bien, il trouverait scandaleux la foi aveugle qu'on a envers des pseudo-sciences. Hein, je parle pas de science ou envers
Le numérique.
Je pense que ça, il serait contre. Au contraire, il faut qu'on réinvente, je crois, les Lumières dans ce qu'elles ont de révolutionnaire. Ils sont contre le fanatisme. Ils sont contre la simplification. Donc, en fait, c'est plutôt, je pense, qu'on a oublié ce qu'il pouvait avoir de critique par rapport aux idoles du moment. Simplement, les idoles ont changé aujourd'hui.
Mais qui aurait cru surtout qu'à l'époque, le discours de Voltaire trouverait pleinement son écho au 21e siècle? Oui. Puisque si on parle de fanatisme religieux, si on parle d'aveuglement, de condition de la femme, on a extraordinairement fait régresser, on se dit que c'est épouvantable.
Oui, non, il est visionnaire. Il y a quelque chose de, je sais pas, de magistral, de très impressionnant dans le parti pris qu'il prend.
Alors, j'aurais bien aimé être Madame du Châtelet, moi, du coup. Voltaire.
Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. And you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes.
Gray de Célestieux.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Étant troublée, j'ai recherché ce type de lecture. Alors j'ai lu après Candide de Voltaire. Et il y avait un mot qui revenait tout le temps. On peut dire un gros mot ?
Tous les mots.
Il y avait le mot cul qui revenait tout le temps. Et vous savez, quand on a 12 ans, surtout de mon temps,
ça marque.
On était friands de ce genre de mots. Moi surtout, je ne disais jamais de gros mots.
C'était pas Constance, mais Régine Desforges, en 1983. Vous écoutez Livre et Châtiment, qui chatouille Candide de Voltaire avec un sécateur. Mon arboricultrice de première main, c'est Constance, et avec nous, les jardinières de haut vol, et je ne parle pas des pots, mais de fonction, les André Lenôtre de la littérature, Cécile Coulon, Liliane Roudière, et notre invitée romancière, Isabelle Sorante, fine connaisseuse de Voltaire. Alors, on le sait, Candide cultive son jardin, c'est la phrase célèbre du livre. En gros, oui, les hommes sont méchants, mais c'est pas grave, il y a les soldes chez Truffaut. Or, qu'est-ce que Candide cultive dans ce jardin, hein ? Eh bien, Voltaire ne le dit pas. Qui nous dit que c'est licite ce qu'il y plante, hein ? Voltaire détestant l'autorité verticale et contrôlante, il était tentant d'imaginer une descente de police dans le jardin de Candide. Bonjour monsieur, police municipale.
Oh, cet uniforme bleu et ce ceinturon noir, les couleurs s'accordent hyper bien. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Vos plantes là, qui sentent fort, vous avez une petite idée de ce que ça peut être ?
Oh, ça c'est un marchand turc qui m'a vendu des graines dans le port de Stalingrad. Il m'a dit qu'elle donnait le sourire, c'est parfait. Et non, on en a planté avec mon maître Pangloss, on a les pouces verts. Vous avez vu ce champ maintenant ? 5000 mètres carrés de sourire.
Alors le sourire n'est pas compatible avec une garde à vue ?
Mais si, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est quoi une garde à vue ?
Attendez, je regarde vos yeux. Vous avez consommé l'herbe de votre jardin ?
Oh oui ! Sous toutes ses formes, de la soupe et des gâteaux. Après, c'est drôle, je vois plus Pangloss pareil, je la pègue Pang-Pang. On rigole bien, tout est pour le mieux dans le meilleur du monde. Le monde est vraiment sympa.
Ok, vous en vendez aussi ?
Alors moi, non. Mais Pangloss, oui. Des gens viennent de partout. C'est hyper sympa. Cunégonde lui donne un petit coup de main, elle porte les paquets. Franchement, tout est pour le meilleur des mondes.
Eh ben, vous allez venir avec moi.
D'accord. Vous n'êtes pas un soldat bulgare, au moins.
Non. Et alors, je préfère vous informer, vous allez finir en prison.
Ah, très bien. Si le monde s'accorde aux événements que je crée, alors tout est merveilleux. Et ça doit pas être si terrible, la prison. Voltaire décrit le cachot comme, je cite, « un appartement d'une extrême fraîcheur où on n'est jamais incommodé par le soleil ».
Ok. Allez, on embarque ! Isabelle Sorante, on s'est permis ce petit sketch. Parce qu'il est un petit peu agaçant, Candide, quand même, avoir le bien partout. Est-ce qu'on a le droit d'être agacé par ça ?
Ah oui, et puis je pense que ça aurait réjoui Voltaire, le petit côté Las Vegas parano, complètement assumé.
Et alors à un moment, Candide, il tombe sur un pays où il n'y a pas de police et il n'y a pas de prison. Il est avec Cacambo, son valet. Ce pays, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, il s'appelle l'Eldorado, c'est une enclave du Pérou. Est-ce que pour Voltaire, c'était donc le sommet du bonheur de n'avoir ni répression, ni autorité verticale, que ce soit police, prison ou clergé?
Je pense que sans doute c'est exact, Clara. Dans l'Eldorado, il n'y a pas non plus de moines. Hein. Il pose la question, il n'y a pas de clergé. Et c'est très intéressant parce que Voltaire, et d'ailleurs ça s'accorde bien à la compassion dont on a parlé envers les animaux, il était déiste, enfin, c'est-à-dire qu'il croyait quand même un peu à l'invisible. Mais par contre, ce qu'il avait en horreur, c'est que ce sentiment de sacré ou d'invisible se traduise par un clergé, par un ordre humain, qui est toujours trop prompt à tomber dans l'autoritarisme et le fanatisme. Donc non, il a effectivement une grande méfiance et justifiée envers tout ce qui est, je dirais, structure autoritariste.
Donc en fait, c'est un homme de foi, mais pas de religion.
C'est ça.
Un peu protestant quand même, on va en reparler tout à l'heure, mais enfin, j'entends du protestantisme. Alors, il se trouve qu'on a cité Cacambo, mais Candide, il est entouré d'une multitude de personnages, de compagnons aussi, hein, au gré de ses voyages. Et parmi ces personnages secondaires, il y en a un que Liliane Roudière, vous avez jugé essentiel.
Oui, j'ai jugé Martin, personnage secondaire essentiel de ce conte jubilatoire, comme dirait Télérama. Ce vieux savant a été élu par Candide comme, je cite, « le plus malheureux des hommes » parce que, tenez-vous bien, ami libraire, il avait travaillé 10 ans pour les libraires à Amsterdam. Et pour Candide, il n'y avait pas, je cite, de métier au monde dont on dut être plus dégoûté. Martin devient alors le compagnon de route de Candide. Il le déniaise de l'optimisme dont le professeur Pangloss l'a gavé. Martin apportant la contradiction et le doute, Candide se met à réfléchir, un peu seulement. Martin se présente comme un manichéen, et ce mot résonne en moi de façon péjorative, me donne à penser que la personne est bornée, divise tout en deux systématiquement, le bien, le mal, le blanc, le noir, quels que soient nos arguments. J'ai donc été surprise de trouver en Martin un homme qui sait écouter et répondre parfois « je ne sais pas ». Et c'est rare. Quoi qu'il en pense, Martin respecte les propos de son maître. Oh, c'est vrai, il n'a pas un gros moral et ne comptez pas sur lui pour entamer une chenille à la fin du banquet. Mais je voyais Martin plus sage que manichéen. Puis, Eureka, j'ai appris que le manichéisme fut une religion, il y a longtemps, au IIIe siècle, fondée sur en gros les ténèbres, la lumière, le karma, le végétarisme, et qui fut persécutée. Une religion, quoi. Ce qui explique la réponse de Candide lorsque Martin confie « J'en ai tant vu et tant éprouvé que je suis manichéen. »« Vous vous moquez de moi, » dit Candide. « Il n'y a plus de manichéens dans le monde. » Me voilà enfin, je dirais, éclairé. On est chez les Lumières.
Oh.
Martin, comme Candide, n'a connu que larmes, violence et trahison. Et libraire à Amsterdam, croyez-moi, c'était de la gnognotte. Mais pour lui, l'expérience a du poids. C'est l'anti-Candide qui, malgré les catastrophes, garde sa béatitude de nouveau-né. Martin finira par faire vaciller Candide, qui s'écrie, derrière un rideau de larmes, « Que vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est qu'illusion et calamité. » Seul bémol. Martin a une morale un peu lapidaire. Je cite, « Travaillons sans raisonner, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. » Autrement dit, « Bosse et tais-toi. » Les manichéens bougent encore et ils sont patrons du CAC 40.
Merci Liliane Roudière. Isabelle Sorrente, Martin, il fait partie de ceux qui critiquent hein, l'optimisme, Liliane l'a un peu dit. Et donc en effet, il est manichéen. Il y en a un autre, c'est Jacques, il critique l'optimisme et il est protestant. Alors pourquoi Voltaire fait passer la critique de l'optimisme via les hérétiques ?
Ben parce que je pense qu'il a cet amour, on l'a vu, pour les gens en marge, et que souvent, les gens en marge, comme lui d'ailleurs quand il s'exile, etc., c'est depuis la marge qu'on voit le mieux ce qui se passe en fait, et qu'on est le plus à même de dénoncer, parce qu'on est un tout petit peu au bord, et du coup on est capable de dénoncer. Et en écoutant Liliane, je me disais, non seulement il y a cet amour de la marge, donc ils ont une vision, je dirais, qui est plus lucide, mais je me suis demandé, en vous écoutant Liliane, si finalement Candide, Martin, Pangloss, Cunégonde, c'était pas une seule et même personne et différentes facettes, comme on peut avoir en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en nous-mêmes, parfois on a un Pangloss, un espèce de grand adepte de la pensée positive, qui va nous dire « ça va pas, mais ça a du sens, c'est nécessaire ». Bon. Et on a aussi un Martin qui est extrêmement pessimiste, et puis on a une personne qui a souffert, on va dire ce serait Cunégonde, et puis peut-être que Candide, c'est la conscience qui essaye de se construire avec toutes ses facettes.
Ah, il n'y a que à Livre et Châtiment qu'on a des analyses comme ça. C'est génial, c'est hyper intéressant. Hein.
Tous les élèves qui vont passer en fin d'année sur le texte, voilà. Vous remercient.
Ah, mais voilà. Évidemment, évidemment. Et là, ça, c'est mon Pangloss qui parle. Là, quelle joie, ça a du sens de vous avoir là, Isabelle Sorrente.
Merci.
Je ne sais plus rien. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté.
Liberté de Yéli Yéli.
France Inter. Livre et châtiment.
Pour un esprit, disons simple, un esprit peu habitué au maniement des idées, eh bien, la lecture de Candide est drôle, c'est certain. Pour quelqu'un qui est plus habitué à découvrir les arrière-plans de la pensée d'autrui, la lecture de Candide pourra être effrayante.
Pas tout à fait d'accord, hein, Pierre Grimal. En 1971, vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui, au lieu de cultiver son jardin, le retourne à la pelleteuse. Contrairement à Candide de Voltaire, qui en prend soin. Il est un peu plus soigneux que nous. Justement, la fin de Candide de Voltaire concerne le jardin. Phrase culte. Je vous lis les derniers mots. « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. » Phrase qui montre qu'enfin, Candide a un peu évolué depuis le début, il a perdu un peu son optimisme d'airain, sa philosophie est devenue « se centrer sur soi permet d'oublier la souffrance du monde » et en effet, aujourd'hui, les manuels de développement personnel ne disent pas autre chose. C'est pourquoi, chers auditeurs, nous vous proposons de réécrire cette fin. Vous pouvez tout imaginer, que Candide passe au napalm tous les enfoirés qui lui ont volé sa vie, ou alors il termine dans un hôpital psychiatrique devenu fou, où il écrit un manuel de survie en milieu hostile. Ce que vous voulez, ça doit faire 5 lignes maximum, que vous nous envoyez à livre-et-châtiment@radiofrance.com, au singulier, tout attaché. La meilleure fin sera publiée sur le site internet de l'émission. La semaine dernière, c'est la fin du Rouge et du Noir de Stendhal que vous deviez réécrire. À la toute fin, Madame de Rênal meurt en une phrase, rejoignant ainsi Julien Sorel, qui a eu la tête tranchée. Les nouvelles fins que vous nous avez envoyées étaient géniales, souvent hors des clous. On ne vous refera pas, toujours avec amour et sans pitié. Il a fallu choisir. Et la meilleure fin de Le Rouge et le Noir de Stendhal, Constance, est attribuée à...
Françoise Boya.
Youpi ! Allez, bravo Françoise !
Je lis votre réécriture, Françoise. On eût su ce que devint Madame de Rênal. S'était-elle retirée du monde des vivants pour se réfugier dans quelque monastère ou dans sa prière ? Elle pouvait honorer son jeune amant, peut-être. Cependant, chaque année, qui suivit la mort de Julien, une main déposait une rose rouge dans la grotte sauvage du Jura, et ce n'était pas Mathilde.
Oh,
c'est joli.
Madame de Rênal est sauvée grâce à Françoise. Merci Françoise. Résurrection instantanée. Ça fait plaisir quand même.
Ça fait des guilis.
Ça fait des guilis. Et ça se termine par une rose. Est-ce que ça n'est pas merveilleux avec Candide, le petit prince, tout est un tout. Je suis maître Pangloss.
Oui,
tout est tout. Dans ce meilleur des mondes possibles de Pangloss d'ailleurs, nous avons les libraires. Ah bah oui, mais on le cherche l'Eldorado, mais il est là. Notre terreau de bonheur. Chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des libraires, nous demandons à un libraire la question la plus farfelue entendue dans sa boutique. Et cette semaine, c'est Maria Ferragu de la librairie Le Passeur, située à Lille sur la Sorgue, dans le Vaucluse, en plein centre-ville, a collé un deuxième magasin qui propose des BD et des vinyles. C'est bien ça, Marie ?
Oui, tout à fait.
Éclectisme, clé du bonheur, clé de l'Eldorado.
On essaye.
On essaye. Marie, quelle est la question ou la scène la plus farfelue qui s'est déroulée dans votre boutique ?
Alors cette année, il y a quelques mois, alors que on était dans cette phase où la librairie était très souvent très pleine, grâce au Covid notamment, on a eu de nouveaux lecteurs qui sont venus vers nous. Et un jour, un monsieur rentre, c'est un peu la folie dans le magasin, c'est un samedi matin, je suis en train de faire un paquet cadeau, c'est un monsieur d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et il se plante devant ma caisse, il dit rien, mais je sens qu'il y a une insistance muette, il attend vraiment quelque chose, donc je me tourne vers lui, j'y dis « je peux vous aider ?» Et il me répond qu'il cherche un livre, donc il se trouve que ce livre, je l'ai, c'est un dictionnaire amoureux, qui est juste derrière lui. Alors avec mon doigt, je pointe le livre, et je lui dis « regardez, c'est le livre avec la couverture jaune qui est juste derrière vous. » Et il se tourne, il se retourne, il regarde à droite, à gauche, il est complètement perdu. Donc je finis par sortir de derrière ma caisse, aller vers lui, je lui donne le livre, et là il pousse un soupir exaspéré, et il me dit « c'est comme dans le frigo de ma femme, je trouve jamais rien.
»
Voilà, donc encore un qu'il va falloir cultiver un petit peu le féminisme.
Voilà, hashtag balance ton frigo, voilà, pour remettre les pendules à l'heure et bâtir le meilleur des mondes. Merci Maria et bonne journée dans cette magnifique région de l'Isle-sur-la-Sorgue. Merci Isabelle Sorand de nous avoir si bien parlé de Candide de Voltaire. Je rappelle que votre roman La femme et l'oiseau, très beau, est paru chez Lattès. Merci Constance, Liliane Roudière, Cécile Coulon. Merci à Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme et à la technique Thomas Langlin. Bonne semaine, n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. On vous embrasse, à dimanche prochain.